Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique, bienvenue sur Point d'Orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro où, au cours de cet été, nous allons pouvoir découvrir d'autres nouvelles petites pépites du répertoire de la musique sacrée. Ensemble, je ne vous lâche pas, j'ai décidé de continuer à vous présenter de nouveaux morceaux. Peut-être qu'il y aura quelques rediffusions dans l'été, mais dans tous les cas, cette fois-ci, non, c'en est pas une avec un petit peu de création originale, et d'autant plus originale que j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de création contemporaine. Il est vrai que quand on parle de musique classique, a fortiori de musique liturgique, de musique sacrée, on a tendance à observer, à l'écouter, à la jauger de manière un petit peu passéiste, parce que souvent, c'est du vieux répertoire qui date d'un certain nombre d'années, voire de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, si on doit parler du grégorien dans son acception la plus ancienne. Et donc, il est vrai qu'on peut se dire, mais finalement, quelle est la démarche d'actualité qui est parfois faite, ou pas, par la musique liturgique? Et on peut se poser la question de cette actualité-là, est-elle bonne, n'est-elle pas bonne, est-elle vivante, etc. Et donc, il y a autour de cela toute une réflexion, en plus de se dire que, eh bien, il y a du répertoire qui peut exister. Naturellement, je vous le dis tout de suite, et ça sera le but de cette émission, il y a des compositeurs de grands talents, encore aujourd'hui, qui composent pour l'Église. Vous le savez parce que, bon, je vous en parle, bon, notamment du répertoire moderne, hein, avec les compositeurs du XXe siècle. La plupart des compositeurs dont je vous ai parlé sont effectivement décédés, mais certains composent encore et toujours, pour notre plus grand bonheur, avec un regard contemporain, parfois avec des références beaucoup plus anciennes, ça je vous l'ai notamment fait remarquer avec des compositeurs comme Arvo Pärt, avec des références au chant grégorien, mais chacun a sa petite patte, et finalement on peut avoir de la musique extrêmement diverse, parce qu'il est vrai que la musique d'aujourd'hui est libérée des codes, des carcans un petit peu d'antan, et elle permet une immense diversité, et également d'un point de vue technique, je dois le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup démultiplié et on s'est parfois réapproprié certains codes anciens. Notamment, l'un des trucs qui me vient à l'esprit, c'est la musique spatialisée. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu révolutionnaire. Quand vous allez au cinéma, vous voyez, il y a le son qui se fait autour de vous, qui est spatialisé, etc. Sauf qu'en fait, ça existait déjà du temps de Gabrielli, hein, à plusieurs siècles, à Saint-Marc, à Venise, où les chœurs pouvaient se mettre jusqu'à 8 endroits différents dans la basilique et bien entendu faire résonner leur voix de façon extraordinaire. Donc, nous avons cette espèce de codes anciens qui sont réappropriés aujourd'hui et qui nous permettent d'avoir un véritable répertoire avec des véritables richesses. Aujourd'hui, donc, on va parler un petit peu de contemporanéité et en même temps avec les clins d'œil vers le passé. Alors, on va commencer par l'un des grands compositeurs d'aujourd'hui, il s'agit de Thierry Esquèche. C'est dur de parler de musique liturgique française sans parler de ce monsieur, immense compositeur qui est né en 1965 et qui est un organiste et compositeur français. Il a été élève du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, il y obtient 8 premiers prix, rien que ça, et ensuite il est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Vous voyez que c'est quelqu'un de bien installé, si j'ose dire, et qui a été dans sa carrière quelqu'un de très prolifique, non seulement en tant qu'organiste, puisqu'il a succédé à Maurice Duruflet à l'orgue de Saint-Étienne-du-Mont, mais également, Saint-Étienne-du-Mont à Paris, hein, je précise, mais également en tant que compositeur, où alors là, il a composé non seulement de la musique sacrée, mais également de la musique profane, et dans tous les genres. Et alors là, je voulais vous faire découvrir l'un de ses motets qu'il a composé en 1998, ça remonte un petit peu, mais ça reste très actuel, vous allez l'entendre, et je vous fais découvrir ça. Alors, je fais un petit peu de publicité pour un ami, une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un CD, en fait, que je vous invite à découvrir sur la musique de Thierry Esquèche, et qui s'appelle Le Souffle de l'âme. Voilà, c'est fait par Anima Productions, et en fait, c'est le chœur de chambre d'Ulcci Jubilo, et c'est Christopher Gibert qui le dirige. Vous savez que je vous parle de temps en temps de son travail, qui vient du sud de la France, également au Grand Orgue, Thomas Hospital, donc là aussi que de la très très grande qualité que je vous invite à découvrir dans ce CD. Et alors, donc on va pas bien entendu passer tout le CD, c'est pas l'objectif. En revanche, je vous demande de vous arrêter sur le troisième motet que je vais donc vous faire découvrir ici, qui est d'une grande modernité, vous allez voir, avec beaucoup de virtuosité, non seulement dans le chœur, mais également dans l'orgue. Alors, je vais vous faire écouter donc les trois motets, enfin le troisième, il faut les écouter dans leur ensemble parce qu'ils ont chacun une signification bien précise. Le troisième motet, il apparaît comme une forme de danse qui va vers l'espérance. D'ailleurs, c'est le titre de ce motet-là. Une danse rituelle qui cherche frénétiquement la lumière, tandis que le texte grec du Kyrie, « Seigneur, prends pitié de nous », jette son ombre angoissée d'après Claire de la Marche, qui a rédigé ce petit texte-là. Je vous lis le texte de ce motet-là. « Qu'est-ce qui nous traque et nous tord et se joue de nous derrière nos masques? Qu'est-ce qui souffre et se révolte au fond de nous, malgré nos rêves? Qui es-tu, triste matière silencieuse? De quel parage du ciel es-tu la messagère oublieuse? De quelle détresse es-tu le gouffre indéchiffrable? Qu'est-ce qui nous porte et nous appelle et nous élève au-dessus de nous dans l'espérance? Et vous allez voir que cette espèce de frénésie va se sentir dans la virtuosité du cœur et bien entendu de l'orgue qui éclate dans une fin triomphale. Et c'est sur ce rythme de danse effréné, sur cette envolée presque explosive que s'achève ce troisième motet de Thierry Esquèche, extraordinaire, qui est repris d'un poème extrait du recueil « Le pays perdu » d'Alain Suède. Et alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette espèce de vivacité du texte, en même temps de la vivacité de l'instrument, et cette correspondance, ces espèces de feux follets presque, qui viennent éclater dans l'acoustique de l'église, et qui donnent à cette œuvre tant d'ampleur. Alors bien entendu, je ne vous ai passé que l'un des motets, il y a les deux autres avant, donc une architecture bien, bien commune que je vous invite à découvrir dans ce fameux CD intitulé Le souffle de l'âme, avec le chœur de chambre Dulce Jubilo, ainsi que Christopher Gibert qui le dirige, et Thomas Hospital. Alors, on va rester avec Thomas Hospital, immense organiste, titulaire de Saint-Eustache à Paris, très très grand organiste. Il a eu comme professeur Olivier Latry au CNSM de Paris ainsi que Michel Bouvard, et c'est d'ailleurs à Michel Bouvard qu'il a succédé à la tête d'orgue du conservatoire, donc de ce fameux conservatoire, avec une filiation, si j'ose dire, si impressionnante, tant les organistes qui sortent de ce conservatoire sont réputés. Et pourquoi est-ce que je vais insister sur l'organiste, non seulement pour son talent mais bien entendu aussi pour sa vision, puisqu'on a parlé de choses contemporaines, il y a bien entendu chez l'organiste une dimension toujours extraordinaire qui est celle de l'improvisation. Alors, bien entendu, je vous en ai déjà parlé un petit peu de l'improvisation. Il y a des improvisations de toutes sortes. Et là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de faire des sortes de miroirs entre l'ancien et le moderne. Et bien entendu, l'un des exercices les plus favoris des organistes, c'est celui de la question et de la réponse. En l'occurrence, avec le grégorien, qui se fait tout simplement assez régulièrement. C'est un exercice d'ailleurs qui a plusieurs siècles. Souvent dans la messe, il y avait des extraits chantés et l'orgue répondait. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait un grand orgue. Le grand orgue, contrairement à aujourd'hui, n'accompagnait pas du tout les chanteurs. C'est pour ça qu'il y avait un orgue de chœur, d'ailleurs. Mais comme il n'y avait pas de technique, comme les micros, etc., le grand orgue était là uniquement pour les dialogues, ainsi que les autres grandes pièces, où l'orgue était tout simplement en majesté. Mais l'adéquation avec le chœur se faisait de manière différente et de manière surtout alternée. Et c'est ce que l'on va vous proposer ici. On reste dans le disque dont je viens de vous parler, et donc il y a le Magnificat grégorien, que vous allez très certainement reconnaître, et Thomas Hospital, avec son talent et son génie, va improviser des versets sur ce Magnificat. Donc c'est-à-dire que vous allez reconnaître un petit peu les formules, vous allez reconnaître presque les couleurs, le sens de la mélodie, etc. Mais bien entendu, vu de façon beaucoup plus moderne et avec les moyens colossaux qu'offre l'orgue de Saint-Eustache, qui est le plus grand de France, avec des sonorités si extraordinaires. Alors, le Magnificat, avec ses versets improvisés, dure un peu plus de 10 minutes, alors vous comprenez bien que je ne pourrais pas tout vous passer. Ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter le début, qui est très intéressant parce qu'il permet de vous mettre tout de suite dans le bain, si j'ose dire, avec le Magnificat chanté à la façon grégorienne. C'est d'ailleurs complètement le Magnificat grégorien. Et ensuite, les premières variations que vous allez entendre avec l'orgue, l'instrument qui va venir sublimer la mélodie que vous aurez déjà entendue. Vous allez le voir. On peut peut-être se poser la question de l'utilité de cette chose-là. Pour moi, et surtout dans la façon dont c'est accompagné et improvisé par Thomas Hospital, c'est une aide véritable à la prière, dans la mesure où elle reprend le thème grégorien, toujours, hein, c'est pas quelque chose qui est déconnecté que ce que l'on vient d'entendre. Le dialogue existe, c'est plus qu'une alternance, c'est un véritable dialogue. L'orgue répond au chant, et le chant naît de l'improvisation de l'orgue. C'est ça qui est absolument merveilleux et qui montre sur à quel point les musiciens ont encore aujourd'hui des choses à dire, non seulement par leur talent, mais en plus par cette espèce d'héritage du répertoire qui leur pousse à toujours se dépasser. Voilà donc le Magnificat avec versets improvisés à l'orgue, Thomas Hospital qui vient improviser sur le chant grégorien. C'est l'orgue presque facétieux qui vient là aussi faire comme si le grégorien était une sorte de petite pépite, comme si bah, ça croustillait, comme si ça éclatait sur la langue. Vous vous rendez bien compte qu'il y a toutes ces possibilités qui sont possibles. Et encore, vous n'avez même pas entendu l'intégralité des improvisations de Thomas Hospital. Rendez-vous compte, les possibilités sont tellement multiples. Vous l'avez entendu avec cette alternance. Il y a toujours quelque chose de différent à dire, malgré le fait que le grégorien suive à chaque fois le même air. Alors soit il s'agit d'une réponse parce que le texte est lui-même différent et implique que l'organiste joue quelque chose de différent, par exemple, si on fait référence à la terre, si on fait référence à des choses même plus graves, aux enfers ou à des choses comme ça, naturellement l'improvisation suivra en ce sens-là, mais si on évoque quelque chose de beaucoup plus céleste, beaucoup plus enfantin, des références aux anges par exemple, ou à la sainteté, naturellement on aura tendance à aller vers la virtuosité, vers les sons, les registres beaucoup plus aigus. C'est ça qui fait tout le génie de l'art de la registration et de l'improvisation. La registration, vous savez, dans les organistes, quand ils sont face à leur console, c'est-à-dire face à leur clavier, ils ont des petits boutons sur les côtés, ce qu'on appelle ça des jeux, des tirants de registres, et ils ont chacun une sonorité différente. Et alors, chacune de ces sonorités combinées forme ces espèces de sons extraordinaires de l'orgue qui, lui seul, est capable d'accompagner aussi bien la liturgie grâce à la multiplicité des expressions qu'il peut faire. Naturellement, tous les instruments sont capables de faire entendre des sons différents selon la façon dont vous les utilisez, mais il est vrai que chez l'orgue, c'est absolument incroyable toutes les choses que vous pouvez faire, toutes les sonorités que vous pouvez mélanger qui sont absolument uniques. Et là, vous en avez eu un tout petit extrait. Naturellement, je vous invite à écouter le CD dont je vous ai parlé déjà à deux reprises. Et là, vous aurez l'entièreté de ce Magnificat avec toutes les possibilités de l'orgue. Et je ne vous cache pas que ça termine sur un espèce de tutti général extrêmement puissant et extraordinaire qui vraiment est dans la magnificence. Et quoi de mieux d'ailleurs pour dire Magnificat et s'exalter devant la puissance du Seigneur et devant tout ce qu'il est capable de faire et rien de plus que l'orgue pour pouvoir nous faire entendre cette acception-là. Je vous ai parlé de Thomas Hospital, l'élève, enfin l'ancien élève. On va maintenant parler de son ancien professeur, Olivier Latry, je vous l'ai cité également tout à l'heure, professeur d'orgue au Conservatoire de Paris avec Michel Bouvard. Et Olivier Latry, c'est également l'un des organistes de Notre-Dame de Paris. On reste très parisien aujourd'hui, hein. Je vous ai cité Thierry Esquèche, il vient d'être notamment nommé à Notre-Dame de Paris, donc on est entre parisiens aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on est parisien qu'on peut pas faire de la belle musique, loin de là au contraire, puisque les moyens sont grands, et donc Olivier Latry, c'est l'un des organistes de Notre-Dame de Paris, et donc qui est capable, avec cet orgue extraordinaire, qui là aussi est une superposition d'orgues qui s'est fait au fil des siècles, dont une reconstruction assez fameuse par Aristide Cavaillé-Coll, vous savez que j'affectionne particulièrement dans son esthétique, et alors là aussi il s'agit d'un orgue géant, plus d'une centaine de registres, un petit peu comme Saint-Eustache que vous avez entendu dans une esthétique différente. Et là, Olivier Latry va faire exactement la même chose sur le Salve Regina. Donc on prend les mêmes, on recommence, puisque ce sont des compositeurs différents, des chœurs différents et un thème grégorien différent, mais vous avez bien compris quelle était la visée totale de cet instrument. Donc là, on va prendre le Salve Regina avec un ton que vous allez très certainement reconnaître et on va ensuite dérouler avec des improvisations. Alors, c'est un langage improvisé, mais de fait, Olivier Latry a décidé de l'écrire, sûrement parce que les improvisations étaient fort réussies, d'ailleurs ça arrivait beaucoup, des retranscriptions d'improvisations réussies, et alors là vous avez toujours la même chose, l'alternance entre le grégorien et l'orgue. Cette fois-ci c'est beaucoup plus long, 23 minutes. Comme nous sommes pris par le temps, je vais vous faire écouter simplement la fin. Vous allez entendre l'orgue qui fait une immense plage sonore avec la dernière prière, la dernière strophe de la prière du Salve Regina, et ensuite l'orgue qui fait un grand crescendo et qui revient de façon beaucoup plus intime. Après tout, c'est vrai que quand il est question de la Vierge, il est aussi question non seulement de sa sainteté, ce qui explique le côté éclatant, mais également de sa discrétion, ce qui explique un côté bien plus doux. Et voilà, mesdames et messieurs, pour ce tour musical et ce regard contemporain vers l'ancien et le nouveau qui sont absolument extraordinaires et qui, là aussi, montrent que les musiciens d'aujourd'hui ont un véritable langage à nous apporter et à venir faire glorifier dans nos églises pour ce répertoire encore plus extraordinaire. Je vous invite, bien entendu, à découvrir le reste des compositions des gens que nous avons écoutés et à découvrir, là aussi, les bienfaits qu'ils apportent à la musique liturgique. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt sur Point d'Orgue.